Chapitre 11. 2 octobre 1998, 10h. 10h, indiquait la pendule Martini. Pile. Marc avait calé le rythme de sa lecture sur celui des minutes qui s'écoulaient, un œil sur le cahier, l'autre sur le cadran. Il referma le cahier vert, le fourra au milieu de ses classeurs dans son Eastpak. Il avança vers le comptoir du Lénine avec un sourire satisfait. Mariam lui tournait le dos, occupée à rincer les verres. Marc posa son doigt sur le zinc, comme s'il appuyait sur une sonnette. « Dring !» fit-il d'une voix stridente. « C'est l'heure !» Mariam se retourna, prit le temps de s'essuyer les mains à un torchon, le reposa bien plié. « C'est l'heure !» insista Marc.
« C'est bon !»
Mariam leva les yeux vers la pendule.
« Eh bien, tu ne perds pas de temps. Tu ne devais pas être du genre à dormir pendant la nuit de Noël, toi. »«
Non, pas vraiment. Allez, dépêche-toi, Mariam. Tu as entendu Lily tout à l'heure, j'y cours. » La pupille de Mariam brilla.
« À d'autres, hein, pas à moi. Bon, le voilà, ton cadeau. »
Elle ouvrit un tiroir, attrapa le minuscule paquet et le tendit à Marc. Il s'en saisit d'une main avide et commença à se tourner vers la porte du Lénine.
« Tu ne l'ouvres pas maintenant ?»«
Non. » Imagine si c'est intime, un sextoy, une petite culotte.
Je ne plaisante pas, Marc.
Alors pourquoi veux-tu que je l'ouvre devant toi?
Parce que je devine ce qu'il y a dans ce paquet, mon grand malin, pour pouvoir te ramasser quand tu tomberas.
Marc dévisagea Mariam, médusée. Tu sais ce qu'il y a dans le paquet?
Oui, en gros, oui. Il y a toujours la même chose. Quand...
Un client, visiblement pressé, piaffait derrière Marc, scrutant avec impatience la rangée de Marlboro. Quand quoi? Mariam soupira.
Quand une fille se tire avec une heure d'avance, petit con, une heure d'avance sur le mec qu'elle laisse seul sur une chaise dans mon bar.
Marc encaissa. Il pensa fugitivement à la bague de sa fille au doigt de Lily, à la croix à Touareg qu'elle n'avait pas enfilée à son cou. Il parvint à hausser les épaules, l'air détaché. À demain, Mariam. Même heure, même table, près de la vitre. Deux places, hein? Il attrapa le paquet d'une main qu'il se força à maîtriser et sortit.
Tout en tendant trois paquets de cigarettes à son client, Mariam regarda Marc s'éloigner. Elle en avait trop dit sur ce coup-là. Elle n'était pas aussi sûre d'elle. Marc et Émilie formaient un couple curieux, étrange, ne ressemblant à aucun autre. Mais ce dont elle était persuadée, c'est que dans les heures qui allaient suivre, Marc allait jouer son destin à pas grand-chose. Un bon ou un mauvais choix. Marc disparut à son tour sur le parvis de Paris 8, comme si son manteau gris avait fondu dans le goudron. Mariam se laissa un instant distraire par la vague ininterrompue des passants. Marc, c'est certain, s'enfuyait, pétri de ses certitudes. Pourtant, pensait Mariam, un seul détail, un grain de sable, pouvait tout faire basculer, pouvait bousculer ses plus intimes convictions, sa vie entière. Le battement d'ailes d'une libellule.
Marc s'éloigna rapidement du Lénine, remontant l'avenue de Stalingrad, un peu au hasard vers le stade de l'Aulne. Le flux des salariés matinaux pressés s'éclaircissait. On croisait désormais sur le trottoir davantage de personnes âgées et de mères de famille encerclées d'enfants et de sacs plastiques accrochés à leurs poussettes. Il progressa encore dans l'avenue sur une cinquantaine de mètres pour se retrouver presque seul. Les mains tremblantes, il déchira le papier cadeau argenté, enfonça négligemment l'emballage dans la poche de son jean. Il découvrit une petite boîte cartonnée. Le carton céda sous ses doigts nerveux. L'objet tomba dans le creux de sa main. Marc tituba, ses jambes refusèrent quelques instants de le porter. Il recula, tel un pantin désarticulé, sur 2 mètres. Son dos heurta le métal froid d'un réverbère. Il souffla lentement pour rétablir son équilibre et sa respiration. Ne pas paniquer, prendre le temps, rétablir le contrôle. La portion de rue restait déserte, mais il n'avait qu'à crier, on l'entendrait, on viendrait. Non, il devait se raisonner. Malgré lui, son souffle s'accélérait, sa gorge se serrait, toujours les mêmes symptômes. Depuis ses 2 ans, son agoraphobie. Respirer. Doucement, reprendre son calme. L'agoraphobie, contrairement à ce qu'on croit souvent, n'est pas la peur des grands espaces ou de la foule. Elle est simplement la peur de ne pas pouvoir être secourue. La peur d'avoir peur, en quelque sorte. Logiquement, une telle panique se manifeste dans des lieux où l'on se sent isolé. Un désert, une forêt, une montagne, l'océan. Mais également au milieu d'une foule, d'un amphi, d'un stade, dans une rue noire de monde, aussi bien que dans une rue déserte. Marc était habitué depuis le temps. Il savait faire front lorsque la crise n'était pas trop intense. Les alertes étaient rares maintenant. Il parvenait à suivre des cours dans des salles de classe bondées, à prendre le métro, à aller au concert. Il souffla. Petit à petit, sa respiration reprenait un rythme normal. Il conserva son appui sur le réverbère, même si le tube d'acier lui torturait le dos. Marc baissa les yeux vers sa paume. Il tenait dans les mains un jouet miniature, un avion. Un modèle réduit, la réplique exacte d'un Airbus A300, en fer assez lourd, d'un blanc laiteux, à l'exception de la queue de l'avion, bleu-blanc-rouge. Un petit jouet majorette, comme on en trouve des milliers sur les étagères des chambres des petits garçons. La main de Marc tremblait, elle se referma sur la carlingue froide. Qu'est-ce que cela signifiait ? Une plaisanterie ? Un cadeau morbide pour accompagner la lecture du cahier de Grand-Duc ? Ridicule. Marc devait réfléchir. Y avait-il rien d'autre que ce jouet ? Marc fouilla la poche de son jean, défroissa l'emballage de l'avion. Il pesta contre lui-même. Mêlé au papier qu'il avait déchiré avec précipitation, il découvrit une petite feuille blanche manuscrite. Marc reconnut immédiatement l'écriture de Lily. Il enfonça plus profondément encore son dos dans le tube du réverbère et lut « Marc, je dois partir. Ne m'en veux pas. »«
Ne m'en veux pas. Je me le suis toujours promis. Partir dès mes 18 ans. Partir loin, ailleurs, en Inde, en Afrique, dans les Andes ou en Turquie. Pourquoi pas ? Ne sois pas inquiet. Ne crains rien. Je suis habituée à l'avion, n'est-ce pas ? Je suis forte. Je survivrai, encore une fois. Si je t'en avais parlé, tu n'aurais pas été d'accord. » Mais si tu prends le temps de réfléchir, alors oui, comme moi, tu le seras. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, dans le doute. Pour cela, Marc, je dois m'éloigner. De toi, je dois faire le point. Couper les branches mortes aussi. Marc, ne cherche pas à me retrouver, à m'appeler, rien. Il me faut de la distance, il me faut du temps. Je le crois. Un jour, nous serons qui nous sommes, l'un et l'autre.
L'un pour l'autre. Prends soin de toi, Émilie. Marc sentit sa respiration à nouveau s'accélérer. Il s'efforça de repousser les pensées qui se bousculaient dans son crâne. Faire, agir. Il avança d'un pas, ouvrit son Eastpak et enfonça l'avion miniature, la lettre et le papier. Il souffla un instant, puis attrapa son téléphone portable. Travailler pour France Télécom lui avait permis d'obtenir des modèles performants pour lui et pour Lily. Dernier cri avec enregistrement automatique de numéros. Sans réfléchir, il fit défiler les noms, s'arrêta sur Lily, appuya sur la touche verte. L'écran s'éclaira, la sonnerie lui parut interminable. Il était très fréquent qu'il téléphone à Lily sans qu'elle décroche. Le répondeur se déclenchait exactement après la 7e sonnerie. Il compta dans sa tête. Après la 4e, il n'avait déjà plus d'espoir.
Bonjour, c'est Émilie. Laissez-moi un message, je vous rappelle aussitôt que je peux. À bientôt. Kiss.
Marc déglutit. La voix de Lily lui fit monter des larmes aux yeux. Lily, c'est Marc. Appelle-moi, je t'en prie. Où que tu sois, s'il te plaît, rappelle-moi. Je t'embrasse. Je tiens à toi plus que tout. Appelle-moi, reviens-moi. Marc raccrocha. Il marcha lentement sur le trottoir du boulevard de Stalingrad, ressassant les mots de Lily. Partir loin, faire le point, couper les branches mortes. Qu'est-ce que cela voulait dire ? Marc n'était pas stupide. Les 18 ans de Lily n'étaient qu'un prétexte. Toute cette mise en scène était liée à ce cahier de Grand-Duc, ce carnet que Lily avait lu toute la nuit. Qu'est-ce qu'elle y avait trouvé ? Qu'est-ce qu'elle y avait deviné ? Savoir qui nous sommes l'un et l'autre, l'un pour l'autre. Non, Marc ne partageait pas les doutes de Lily. Rien au monde n'aurait pu entamer son intime conviction. Marc parvint place du général Leclerc. Les bus se croisaient en rang serré de part et d'autre de la rue Gabriel-Péri et de l'avenue du colonel Fabien. Que pouvait-il faire? Comment retrouver Lily? Suivre le même chemin qu'elle? Lire le carnet de Grand-Duc jusqu'à la dernière page? Deviner ce que Lily avait deviné? Marc pesta. Il demeura immobile devant le va-et-vient des bus sur la place. Il lui semblait impossible de rester assis à lire cette centaine de pages dans l'hypothétique espoir d'y découvrir une piste. Il attrapa à nouveau son téléphone portable, fit glisser les noms, s'arrêta au B. Boulot. Marc s'éloigna un peu de la place où le bruit de la circulation était assourdissant. Allô ? Jennifer ? Super, c'est Marc. Excuse-moi, je suis super pressé. J'ai besoin d'un renseignement perso. Le numéro de téléphone et l'adresse d'un type à Paris. Tu notes son nom ? Grand-Duc. Crédule Grand-Duc. Oui, je sais, c'est pas banal comme prénom. Ben, comme ça, il n'y en aura pas deux. Jennifer, sa collègue chez France Télécom, avait le même âge que lui, étudiait en lettres étrangères appliquées, et Marc se doutait que sans trop se forcer, elle serait tombée amoureuse de lui. L'écouteur toujours collé à l'oreille, il leva les yeux, observa quelques instants dans le ciel blanc les trois cloches du sommet de la basilique Saint-Denis, au-dessus des immeubles, quelques rues plus bas. « Ouais ? C'est vrai, tu les as ? C'est génial !» Marc griffonna le numéro et l'adresse de Grand-Duc. Il lança à Jennifer un « merci » précipité avant de raccrocher et composa aussitôt le numéro de téléphone du détective privé. La sonnerie retentit longtemps dans le vide avant que ne se déclenche à nouveau un répondeur. Marc pesta en lui-même. Tant pis, il devait jouer franc jeu, ne pas perdre de temps. Grand-Duc, c'est Marc Vitral. Il faut à tout prix que je vous joigne, ou mieux que je vous rencontre, le plus rapidement possible. Cela concerne Lily, votre cahier aussi, celui que vous avez écrit pour elle. Je l'ai entre les mains, elle me l'a confié. Je suis en train de le lire. Écoutez, si vous avez ce message, rappelez-moi sur mon portable. Je fonce chez vous, j'y serai dans 3 quarts d'heure au maximum. Marc rangea le téléphone dans sa poche, déterminé à présent. Il rebroussa chemin et remonta à grands pas le boulevard de Stalingrad, direction le terminus de la ligne 13. Grand-Duc habitait 21 rue de la Butte-aux-Cailles. Marc déclina dans sa tête les lignes principales du plan de métro. Depuis 2 ans qu'il se promenait seul dans les rues de Paris, il avait appris à se repérer, sans même avoir désormais recours au plan des stations. La ligne 13, direction Châtillon-Montrouge, le ramènerait dans le centre par Saint-Lazare, les Champs-Élysées, Invalides, Montparnasse. La Butte-aux-Cailles devait se trouver sur la ligne 6, direction Nation, entre Glacière et Place d'Italie. A priori, il fallait changer à Montparnasse. Au total, 20aine de stations, peut-être un peu plus. Quelques minutes plus tard, Marc se trouvait à nouveau devant l'université de Paris 8, rue Lénine. Il jeta un coup d'œil au bar de Mariam, de loin, puis s'engouffra dans le métro. Dans le couloir, juste après le premier tournant, un peu protégé du vent, un type dormait sur un drap sale, à côté de son chien, un bâtard maigre et jaune. L'homme ne mendiait même pas. Marc déposa 2 francs sur la couverture, presque sans ralentir sa marche. Le chien tourna la tête et le regarda partir d'un air étonné. Depuis 2 ans que Marc errait dans le métro parisien, il continuait de glisser une pièce presque à chaque fois qu'il croisait un paumé. Il avait gardé cette habitude de Dieppe, où sa grand-mère donnait toujours au type dans la rue. Elle lui avait appris, expliqué année après année le socle des valeurs, la solidarité, dépasser la peur des pauvres, surmonter la honte de donner. Cela faisait partie de sa morale maintenant, à Dieppe comme à Paris, ou dans n'importe quelle autre ville du monde où il irait. Cela lui coûtait une fortune. Lily se moquait de lui gentiment. Aucun Parisien ne faisait ça. C'est qu'il n'était pas Parisien, alors. Il n'y avait presque personne sur le quai dans le sens Saint-Denis-Paris. Une chance, pensa Marc. 3 quarts d'heure de métro, 20 stations, Il aurait le temps de continuer de lire le cahier de Grand-Duc, d'essayer de comprendre à son tour, de marcher dans les pas de Lily. Quatre mots hantés Marc. Couper les branches mortes. Que voulait dire Lily ? Couper les branches mortes. Le métro entra dans la station. Marc monta dans la voiture, sortit le cahier vert. Une idée folle, persistante, s'incrustait dans son esprit. Et si cet avion n'était qu'un leurre, une mise en scène pour l'impressionner ? Lily ne lui avait pas tout dit. Cette bague, par exemple, ce saphir qu'elle portait, d'où sortait-il ? Il y avait trop de parts d'ombre. Et si Lily n'avait jamais eu l'occasion de partir, loin, ailleurs, et si Lily était restée là, proche, son but étant tout autre ? L'écarter. L'écarter parce que ce qu'elle voulait entreprendre était risqué, dangereux. L'écarter parce qu'il n'aurait pas été d'accord. Couper les branches mortes. Et si Lily avait découvert la vérité et cherchait tout simplement à se venger ?